Punchline, Laurence Ferrari sur Europe 1.
Bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant dans Punchline sur Europe 1 et sur CNews. On va débattre des grands sujets de l'actualité, la politique évidemment, avec ses consultations à l'Élysée. Nous sommes avec nos invités. François Patria nous a rejoint, président du groupe La République En Marche au Sénat. Bonsoir,
bonsoir.
Monsieur le sénateur. Sébastien Chenu, député Rassemblement National du Nord. Bonsoir, monsieur le bonsoir. Député. Tatiana Renard-Barzac, journaliste politique. Et Jean-Sébastien bonsoir. Ferjou, directeur d'Atlantico. Merci d'être resté pour cette deuxième heure de Punchline. Alors, les nouveaux ou les anciens députés ont donc fait leur entrée aujourd'hui dans l'hémicycle, notamment le groupe de la France Insoumise, qui a fait le show devant le Palais Bourbon, accompagné pour l'occasion de Jean-Luc Mélenchon, qui certes ne s'est pas représenté, mais qui a fait visiter les locaux à ses collègues. Et puis il y a d'un autre côté le président Macron, qui a commencé à recevoir les chefs de parti ou de formation politique pour tâter le terrain, pour, dit-il, trouver des solutions constructives. On va entendre les réactions à la sortie de l'Élysée. Marine Le Pen est arrivée il y a quelques instants, mais une chose est sûre, la vie ne va pas être un long fleuve tranquille pour lui dans les 5 ans à venir. Florent Tardif avec Thibault Marcheteau, vous vous trouvez tous les deux à l'Élysée. Je le disais, l'ancienne patronne du Rassemblement National est arrivée, forte de ses 89 députés. Et évidemment, la discussion va s'engager avec le président Macron, Florian.
Oui, Marine Le Pen qui est arrivée ici il y a une petite trentaine de minutes, arborant un large sourire dans un état d'esprit que je pourrais décrire de conquérant. L'ancienne présidente du Rassemblement National était conquérante. Pourquoi ? Parce que vous l'avez souligné, c'est la première fois que le Rassemblement National dispose d'un tel groupe au sein du Palais Bourbon. Ça deviendra le premier groupe d'opposition au parti présidentiel au sein de l'hémicycle. Marine Le Pen qui est reçue comme l'ont été d'autres chef de parti avant elle, puisque Emmanuel Macron s'entretient maintenant depuis le début de la journée avec ses opposants politiques, le président de la République qui cherche, vous l'avez compris, sans majorité absolue à trouver des alliés parmi ses opposants politiques. Pas sûr dans le cas présent que Marine Le Pen accepte de jouer ce rôle.
Merci beaucoup Florian Tardif avec Thibault Marcheteau à l'Élysée. Sébastien Chenu, vous êtes là. Marine Le Pen est prête à des concessions? Elle est prête à trouver des points d'accord avec le président de la République sur certains textes ou pas?
Non, mais je crois qu'elle vient d'abord, elle vient à l'invitation du président de la République. Donc c'est qu'il a probablement quelque chose à lui dire. C'est lui la puissance invitante. Donc a priori, c'est le président de la République qui a quelque chose à lui dire. La deuxième chose, c'est que je crois qu'elle va lui faire passer un message qui est le suivant. Il y a eu des élections législatives, il y a eu un message qui a été envoyé, la présence de 89 députés Rassemblement National dit quelque chose de ce message envoyé. Est-ce que vous êtes prêts, vous, à modifier votre projet, à reculer sur un certain nombre de choses qui sont vécues comme d'une immense brutalité par les Français? Est-ce que vous êtes prêts à changer de méthode? Est-ce que vous êtes prêts à considérer vos oppositions, ne pas refuser, comme on l'a subi pendant 5 ans, tous les amendements, toutes les propositions? Bon voilà, c'est plutôt en cela. C'est pas venir dealer quelque chose, c'est venir lui dire la situation politique aujourd'hui n'est plus la même qu'il y a quelques semaines. Il faut que vous en preniez conscience, car si vous n'en prenez pas conscience, on va vers des moments difficiles.
Mais ce qui m'intéresse, c'est est-ce que ce sera une opposition systématique, frontale sur tous les textes, ou est-ce qu'encore une fois, la loi pouvoir d'achat est parmi les premières lois qui vont être présentées au Parlement, vous direz ok, on vote, là il y a telle et telle mesure qui nous conviennent.
Mais j'invite ceux qui aiment la politique à regarder ce qu'on a fait pendant 5 ans. Nous n'avons jamais été une opposition sectaire.
Je vous donne vous n'avez pas voté une les lois sur la sécurité, on est d'accord.
Nous avons voté, c'est pourtant durant votre 5 ans, commerce. Des dizaines, voire des centaines d'amendements et de propositions de loi de tous les groupes politiques parce qu'on se disait ça va dans le bon sens. Jamais une fois, un groupe politique France Insoumise, Socialiste, En Marche, n'a voté un amendement, même le plus, un amendement de changement de virgule, au fond de la nuit. Pas une fois. Donc, si vous voulez, le sectarisme, il est quand même chez ceux qui nous gouvernent depuis déjà très longtemps. Nous, on ne sera pas une opposition systématique. On empêchera, on va contrer Emmanuel Macron d'avancer sur des sujets comme la réforme des retraites ou ce qui atteint la qualité de vie des Français. Et on fera toujours des propositions en regard pour montrer qu'il y a une autre solution qui est possible.
François Patria, alors vous êtes la République en... Enfin, Renaissance, maintenant c'est Renaissance ou République en Marche?
Dites-moi qu'on en marche, ça me gêne pas.
On peut dire En Marche, ok. Est-ce que vous êtes les sectaires dont parle Sébastien Chenu, le sectarisme de la République en Marche?
Écoutez, moi je me place du point de vue des sénateurs.
Oui, bien sûr.
Mais enfin,
vous êtes intéressé à ce qui se passe au Parlement.
Au Sénat, au cours de la précédente législature, dont on dit que la prochaine va être difficile pour le président, la précédente n'a pas été facile, c'est le moins qu'on puisse dire.
Il avait la majorité quand même.
C'est le moins qu'on puisse dire. Non mais d'accord, mais malgré tout... Tout ce qu'il a traversé pendant ces 5 ans, je crois qu'aucun président de la République ne l'avait vécu avant. Alors on voit bien, au vu du résultat des élections dont il faut tenir compte, hein, que le président a entendu Et aujourd'hui, il fait une démarche à la fois républicaine et respectueuse de l'esprit de la Constitution. Il le fait en disant, et moi je pense que même avec une majorité relative, la France peut fonctionner. Le gouvernement peut gouverner. Je crois qu'il peut le faire.
Oui, mais avec
Donc, est-ce que nous serons sectaires? Est-ce que nous sommes sectaires? Non, pas du tout. Je pense que, nous, au Sénat, je vous le disais, sur les deux tiers des textes de loi, nous avons obtenu un accord avec les oppositions pour faire aboutir les textes. C'est quand même pas si mal. Vous voyez qu'au-delà de l'affichage dont on parle souvent, il y a aussi une volonté d'aboutir. Donc là, je crois que la seule volonté, c'est l'intérêt des Français, ce qu'attendent les Français. Et moi, je crois que tout ce qui peut aller dans ce que demandent les Français aujourd'hui en matière de pouvoir d'achat, en matière de sécurité, en matière de prise d'énergie demain entre mer d'habitat, sur ces sujets-là, les textes de loi, alors il faudra sans doute en amoyer quelques-uns. Là où l'OPNI aujourd'hui ne doit plus être celle qui était présentée avant, au vu des résultats de l'élection, elle sera sans doute modifiée.
Vous avez entendu le message des Français quand même.
Vous avez entendu
ce qu'ils vous ont dit.
Oui.
Ils ont élu plus de 100 députés et 89 RN. Ils disent attention, là vous n'y êtes pas du tout.
Non mais, écoutez, ils ont... Alors, plutôt que des accords de parti auxquels je ne crois pas. Et je me souviens, moi j'étais à l'Assemblée nationale entre 88 et 93, lorsque Michel Rocard a fait passer deux choses.
Mais
des fois l'histoire, vous savez, ceux qui ont les racines plongées dans le passé ont le feuillage tourné vers l'avenir. Hein, voilà, c'est ce que disait Victor Hugo. Je vous le donne comme tel. Donc moi j'ai aussi les racines tournées dans le passé. Donc et je voulais vous dire cela parce que on a fait passer le RMI, on a fait passer la CSG sans majorité. C'est vrai qu'il en manquait qu'une dizaine et pas 40 à l'époque.
Là, ça,
vous le donne comme tel.
Je
pense que les difficultés sont telles et les problématiques sont si intenses que sur ces sujets-là, on peut trouver des parlementaires de droite comme de gauche qui rejoignent la volonté du gouvernement de faire aboutir. Si demain, au mois de juillet, dans la loi pour le pouvoir d'achat, il y a 30 milliards sur la table, je voudrais savoir qui va se poser demain.
Alors, Tatiana Arnaud-Mazac,
un petit mot avant la pause. Là, par exemple, sur le projet de loi pouvoir d'achat et sur les autres textes d'ailleurs, ça semble encore plus compliqué que de monter les meubles d'une fameuse firme suédoise. Sincèrement, je pense que ça va être extrêmement compliqué de trouver des accords parce que quand on regarde vraiment concrètement ce que propose la majorité présidentielle, c'est quoi par exemple? Soyons concrets, pour le pouvoir d'achat, c'est le chèque pour les familles modestes de 50 à 60 euros, c'est le blocage des prix sur l'énergie qui va être prolongé, c'est aussi la remise de 18 centimes par litre qui va être prolongée pour les gros rouleurs, c'est la réindexation des retraites sur l'inflation, il y a plusieurs propositions. Quand on regarde ensuite maintenant ce que propose par exemple le RN, qu'est-ce qu'il y a? La baisse de la TVA à 5,5 sur les produits de première nécessité, le blocage des prix. Quand on entend aujourd'hui la NUPES, ou plutôt LFI, qui dit que eux, ça sera 1,40
euros
par litre de remise.
Non,
mais sur la baisse de la TVA, vous, à 5,5. Quand on entend la NUPES qui dit, nous, c'est le 1,40 le litre, c'est le SMIC à 1 500 euros, on se dit que ça va être
RSA à 1,040.
On se dit que ça va être très compliqué, sincèrement, de trouver des accords. Donc, on ne voit pas comment ce projet de loi, qui normalement devrait être là en route et devrait être prêt pour cet été, va pouvoir aboutir, très honnêtement. Enfin, ça semble extrêmement compliqué de trouver ces majorités-là, ou en tout cas des accords de principe, si ce n'est d'aller essayer de débaucher à droite et à gauche des députés pour essayer de fabriquer des majorités. De principe, mais
un tout petit mot, Sébastien.
Moi, je vois en tous les cas que le ton a changé du côté de la majorité. Moi, j'ai connu cette majorité à l'Assemblée nationale, pas au Sénat, qui il y a 5 ans arrivait avec une arrogance incroyable, etc., qui n'a donc rien retenu, rien voté, qui a rejeté tout ce qu'on proposait. Et aujourd'hui, le ton a baissé. Tant mieux. Si déjà l'arrivée des députés Rassemblement National, ça permet que la majorité, c'est l'école de l'humilité, la politique, permet de prendre en considération autre chose, une autre vision des choses, on a déjà gagné
et
un point.
Et figurez-vous que ça stimule Emmanuel Macron, on va entendre dans un instant François Bayrou qui trouve que le président finalement se trouve assez bien dans cette situation. Une petite pause, on se retrouve dans Punchline sur Europe 1 et sur CNews.
Punchline, Laurence Ferrari sur Europe 1.
On se retrouve sur le plateau de Punchline Europe 1 CNews avec François Patria, sénateur La République En Marche, Tatiana Renard-Barzac, journaliste politique, Sébastien Chenu, député Rassemblement National du Nord, et Jean-Sébastien Ferjou du site Atlantico. François Bayrou, le patron du Modem, allié d'Emmanuel Macron, a aujourd'hui évalué la situation qui se présente au président de la République et finalement, il trouve que cela peut stimuler Emmanuel Macron. Écoutez-le.
Je pense qu'il est très intéressé par les défis de la période. Je pense que depuis 5 ans, il a souvent approché ces questions, pendant le grand débat par exemple, souvent approché ces questions. Et il a aujourd'hui sous les yeux un paysage qui fait que nul ne peut plus ignorer les questions qu'il avait en tête. pendant toute cette période. Et je pense que, encore une fois, je risque peut-être qu'il ne sera pas d'accord. Je pense qu'il trouve ça stimulant.
Il trouvera ça stimulant. Je trouve que c'est assez spécial de dire ça, vu la situation dans laquelle le pays se trouve. Le blocage politique en question, la crise sociale et économique, c'est stimulant comme si c'était un jeu, Tatiana Renard.
Je pense que François Bayrou s'est pas rendu compte de la petite bombe là, qu'il dégoupillait, parce qu'en fait, quand j'ai entendu ça, et je pense qu'on a tous réagi pareil, il y a un côté arrogance. Qui n'a pas su entendre le message des Français. Animal politique aussi, c'est-à-dire stimulé aussi par les enjeux de petites combinaisonnées qui vont se passer dans les jours qui viennent. Bon. Donc ça, ça pose un vrai souci. Cela dit, maintenant, si je suis tout à fait honnête intellectuellement et que je lis entre les lignes ce que dit François Bayrou, je pense comprendre, en fait, ce qu'il souhaite dire, c'est qu'en fait, Emmanuel Macron est arrivé au pouvoir en souhaitant faire sauter les clivages politiques, en dépassant les clivages traditionnels et en repensant la politique différemment. Quand François Bayrou sort aujourd'hui en disant en fait il faut une union nationale, il faut arriver à dépasser les clivages pour qu'on arrive à faire ce gouvernement d'union nationale, je pense que ça sonne à l'oreille d'Emmanuel Macron parce que la première étape de son dépassement des clivages n'a pas fonctionné. Et donc ça l'intéresse parce qu'il se dit en fait si je pousse la logique de ce que je suis venu faire en politique en 2017, peut-être que là je suis à ce moment-là. C'est-à-dire que j'ai des oppositions très fortes et peut-être qu'on peut arriver à trouver une coalition sur certains projets. Donc je pense que c'est ça que François Bayrou voulait dire, mais il l'a dit de façon assez maladroite et qui peut en effet être un effet boomerang pour le président.
J'en sais, Bastien Ferjoux, puis après je vous passe la parole les politiques.
Oui, parce que c'est un peu considéré que pour eux c'est un jeu. Je ne crois pas que ça soit perçu comme un jeu par les Français et qui sont allés assez loin justement pour essayer d'exprimer leur insatisfaction. Et après, il faut arrêter avec dépasser les clivages. Il ne suffit pas d'agiter.
Mais les Français, ils ont dépassé. Ils votent plus. Ils ont dépassé les clivages.
Oui, mais exactement. Mais c'est parce qu'on confond deux choses. On confond le fait d'être parfois, de savoir construire des solutions à plusieurs, y compris avec des gens qui peuvent avoir des orientations politiques différentes, et le fait de dépasser les clivages. Mais dépasser les clivages, c'est la négation de la démocratie. Il n'y a pas de démocratie quand il y a le clivage. Le clivage est consubstantiel à la démocratie. Et pire que ça, on ne peut pas. L'existence du bloc central, qui justement s'est fait avec l'alliance entre François Bayrou et Emmanuel Macron, est devenue un verrou, quelque chose qui asphyxie la démocratie, en tout cas avec le mode de scrutin. Alors les Français, qui sont un peuple quand même très politique, dans leur intelligence, ont réussi à contourner la difficulté. Mais de facto, quand vous voulez dépasser les clivages et que vous avez ce scrutin majoritaire plus le bloc central, ça équivaut à ce qu'il n'y ait plus jamais d'alternance possible. Mais une démocratie où il n'y a plus jamais d'alternance possible, c'est une démocratie qui va vers la violence. Donc il faut savoir quand même le reconnaître, et je vous le disais tout à l'heure, les gens, les gadgets, et François Bayrou a fait partie de ceux qui les ont poussés, hein, le quinquennat, l'inversion du calendrier, l'interdiction du cumul des mandats, etc. Toutes ces choses-là dont on imagine qu'elles vont renouveler la vie politique, alors il y a une seule chose qui peut renouveler la vie politique, c'est le discours politique lui-même. C'est à partir du moment où on dit des choses qui sont en prise avec le réel, c'est ça qui renouvelle la vie politique, c'est pas je ne sais quelle réforme qui ont l'air soi-disant moderne.
Est-ce que vous êtes choqué par ce que dit François Bayrou ?
Je partage ce que dit Jean-Sébastien Ferjou. Moi, je trouve ça d'abord totalement ringard maintenant, ce discours de dépasser les clivages. On a l'impression que rien n'a bougé depuis 5 ans. Effectivement, les clivages, c'est sain dans une démocratie. On affirme des choses, on s'oppose à des choses. Le jour où il n'y a plus ça, il n'y a plus de démocratie. Et je trouve qu'il y a un cynisme incroyable du président de la République, là, dans ce que dit François Bayrou, de François Bayrou concernant le président de la République. Si ça stimule le président de la République de voir l'état du pays, de voir la façon dont les Français ont réagi, c'est d'un cynisme. Si ça l'amuse aussi, peut-être, je trouve que c'est d'un cynisme quand on voit les difficultés auxquelles sont confrontés les Français.
François Patriat, venez à la rescousse de votre président.
J'ai l'interprétation des propos de Bayrou. Moi, ce que j'en pense, c'est que ce qu'il a voulu dire, ou ce que je crois moi, c'est que les difficultés, loin d'anéantir la volonté du président, fouettent sa combativité. Il a envie quand même que la France réussisse, que les Français réussissent, et pour ce faire, il ouvre toutes les voies pour y arriver. Sur le dépassement, alors moi, je serais d'accord avec vous sur le fait, les clivages. Moi, je dis le dépassement, tout simplement. Ce que recherche Emmanuel Macron, ce n'est pas tant le dépassement des clivages, pas comme ça. C'est le fait que des gens qui appartiennent à des chapelles différentes puissent travailler ensemble dans l'intérêt général. C'est ce qu'avait souhaité d'ailleurs Giscard en 2 Français sur 3 à une époque. Et quand je vois aujourd'hui Bruno Le Maire, dont j'ai admiré la campagne électorale qu'il a menée, quand je vois Gérald Darmanin, quand je vois d'autres, et que je vois des ministres aujourd'hui qui sont venus aujourd'hui, travailler avec des gens issus de la gauche, moi vous savez, de la gauche, et ce n'est pas dépasser le clivage, c'est me dépasser moi-même et aller outre mais non pas les convictions qui restent les mêmes, mais aller outre le sectarisme que je connaissais pour pouvoir, avec d'autres, faire avancer le pays. Non, c'est ça le dépassement.
Ce discours, il est impossible, François Patriat. Vous avez recréé un clivage qu'il faut que vous assumiez. Vous êtes des libéraux, mondialistes, et dans ce clivage, c'est pas insultant. Il y a Bruno Le Maire, il y a Darmanin, il y a vous, etc. Et vous avez recréé un clivage. Ne dites pas que vous avez dépassé le clivage, vous avez réorganisé, et les Français l'ont fait à travers leur vote, la vie politique, avec d'autres clivages. Vous n'avez rien dépassé du tout. Vous avez recréé un clivage.
Fait du, en même temps, gauche-droite, en même temps.
Est-ce que Elisabeth Borne doit démissionner? En tout cas, il y a pas mal d'oppositions qui l'ont demandé aujourd'hui. On va écouter quelques réactions. Est-ce qu'elle elle doit rester ou pas? Réponse avec François Patriat dans un instant. D'abord, on écoute les réactions politiques.
Il est à poil. Il a rien d'autre pour l'instant. Il n'a rien d'autre. Et puis aussi parce qu'il n'a pas la main. En fait, ce qui s'est passé dans cette élection, c'est que le Parlement a pris la main. C'est le Parlement. Ce n'est pas seulement une bataille politique entre trois forces politiques à l'Assemblée. C'est aussi un rapport de force entre l'Assemblée et l'exécutif. Et moi, je pense qu'il faut que l'Assemblée nationale, tout groupe confondu, saisisse ce moment pour prendre son pouvoir.
Voilà, Raquel Garrido, donc, de la France Insoumise. Il faut que Jean-Luc Mélenchon dise la même chose. Il faut qu'elle démissionne, François Patriat.
J'ai compris que ce n'est pas seulement chez Jean-Luc Mélenchon qu'on le demande. J'ai vu que tous les partis demandent de l'opposition.
Demande aussi, voilà.
Aujourd'hui, tout le monde demande aujourd'hui. Bon, alors moi, je pense qu'on est dans les veines critiques, on est dans la guéguerre politique. Aujourd'hui, quand on arrive, même quand on est de l'opposition, le problème n'est pas de savoir si jamais le Premier ministre va démissionner ou pas. Ça ne dépend pas de vous, ça dépend d'abord des voix qui lui seront apportées.
Le président a refusé sa démission aujourd'hui. Hein.
Et je pense qu'il a bien fait. On ne nomme pas une Premier ministre un mois avant, qui travaille sur tous les textes qu'on va présenter pendant l'été, en même temps, à la veille où elle va les présenter, lui dire « barrez-vous, c'est pas la peine ». Je trouvais d'abord en plus qu'il y avait un côté vulgaire dans ce que produit le président à poil, etc. Mais vous savez, j'ai le sentiment, quand j'entends les réponses des opposants, que leur seule réaction, c'est pas la proposition, ou les propositions qui sont incongrues ou intenables, mais c'est plutôt, c'est de l'anti-Macron primaire. Toujours Macron, il doit Macron, Macron. C'est toujours, si on dit pas, dans une phrase, quand de l'opposition, que Macron ne réussit pas, que Macron est méprisant, que Macron est arrogant, que Macron a tout échoué, on n'a pas fait de politique. Et moi, je trouve ça désastreux pour le climat politique aujourd'hui.
Sébastien Chenu, s'il vous plaît, pardon.
En tout cas, c'est sûr que c'est pas chez vous qu'on va entendre que Macron est méprisant, arrogant, qu'il a tout raté, ça c'est sûr. Ben non, on va vous le rappeler, parce que c'est pas très brillant quand même. Au-delà de ça, Madame Borne, d'abord, elle est tombée au fond d'un trou depuis sa nomination. Je veux dire, elle imprime pas ce qu'elle raconte, tout le monde s'en contrefiche, il n'y a rien, il n'y a pas de discours, il n'y a pas de volonté, il n'y a pas de chair. Et puis je crois qu'elle elle aura du mal à pouvoir naviguer dans un temps agité. En mer calme, Madame Borne, peut-être que ça marche. En mer agitée, ça ne va pas être simple. C'est vraiment pas la femme de la situation, moi, je crois. C'est une techno qui est là pour appliquer la feuille de route du président, mais il s'est passé des choses depuis l'élection présidentielle, des législatives. Donc c'est une techno qui est là pour appliquer. Le problème, c'est qu'il ne peut plus appliquer sa feuille de route des présidentielles.
Non, les législatives ont-elles donné une majorité à l'opposition? Non, non.
Non, mais elles n'ont pas donné une majorité absolue.
Même ensemble, même si vous étiez ensemble, vous ne feriez pas une majorité. Et comme vous ne serez jamais ensemble, il n'y aura jamais
ensemble avec qui
alternative. Jamais alternative.
La question, elle n'est pas celle, peut-être, du casting à proprement parler. Emmanuel Macron est bien libre de choisir, au terme de la Constitution, la Première ministre qu'il veut. En revanche, il y a un sujet institutionnel, à savoir que dans la Constitution, le Premier ministre est censé être le chef de la majorité parlementaire. Et on a totalement perdu ce fil-là avec le quinquennat, avec l'inversion du calendrier, et summum avec un Édouard Philippe qui, quand il est devenu Premier ministre, n'a pris aucune carte. Même Raymond Barre avait fini par prendre sa carte de l'UDF. C'est-à-dire que c'était un Premier ministre qui était hors sol. Il n'a créé son parti que plus tard. Oui, mais quand vous avez un Premier ministre qui finalement de lui-même se résout à n'être qu'un collaborateur alors qu'il est censé être le chef de la majorité et que la majorité parlementaire, ça n'est pas la même chose que la majorité présidentielle. Parce que sinon, si c'était la même chose, là, il n'y a pas de majorité pour Emmanuel Macron, il ne devrait plus être président de la République. Donc je constate qu'il n'a pas démissionné, c'est donc que la majorité présidentielle, ça n'est pas la même chose que la majorité parlementaire. Le Premier ministre a vocation à être le chef de la majorité parlementaire. Et c'est là où la question qui se pose sur Madame Borne n'est pas celle de, finalement, ce qui s'est passé. C'est juste, a-t-elle l'étoffe pour imposer quelque chose et savoir construire un minimum de majorité
Jean-Luc Mélenchon appelle Elisabeth Borne à se soumettre à un vote de confiance des députés. Vous dites banco?
Non, je souris. Venant de la part du chef des Insoumis, qui appelle les gens tous les jours à se soumettre autour de lui. Lui, il est insoumis, mais les autres doivent se soumettre.
Alors, un vote de confiance des députés.
Chaque jour, il demande à quelqu'un de se soumettre à lui.
C'est-à-dire que disant « vous devez vous soumettre », quand on est insoumis, un oxymore.
Hein. C'est pas faux. Est-ce qu'il faut qu'elle ait la confiance du Parlement, quoi?
Alors, Vous savez que la Constitution prévoit qu'il peut y avoir vote de conscience ou pas vote de confiance.
Oui, ben là, on du temps, bien que vous n'allez pas le faire, le vote
mais de Bérégovoy confiance. Ne l'a pas demandé, Rocard ne l'a pas demandé, ils ont pu gouverner oui. parfaitement.
Mais là, vous n'allez pas le demander, on est bien d'accord.
Ah, je ne sais pas ce que serait ça le gouvernement, je vous demanderai. Ça va être un souci, pardon.
Si vous ne faites pas...
Je voulais quand même répondre sur les
institutions.
Qui peut croire aujourd'hui que Chirac, même président, n'était pas le chef de la majorité parlementaire, que Mitterrand ne l'était pas, que De Gaulle ne l'était pas? Est-ce que c'était Debré, le chef de la majorité parlementaire? Mais non, c'était le général De Gaulle. Vous redécouvrez l'eau chaude aujourd'hui, la 5e République.
Je constate que nous ne sommes pas en période de cohabitation et nous ne sommes pas en période de majorité absolue. Donc dans l'entre-deux, pardon, il y a pas de c'est d'une logique absolue. Soit la majorité présidentielle, c'est la même chose que la majorité parlementaire. Il n'y a pas de majorité parlementaire, donc pas de majorité présidentielle. Emmanuel Macron démissionne. Soit il a sa légitimité parce qu'il a été élu, ce que je crois. Il a une vraie légitimité. Il a été élu à la présidentielle. Il y a une majorité parlementaire qui doit être construite autrement, avec un chef qui est sur un positionnement politique différent.
Si je peux me permettre deux choses, c'est vrai qu'on a un peu oublié parce que la façon dont Emmanuel Macron a conçu le rôle de Premier ministre jusqu'à présent, que ce soit Édouard Philippe qui faisait d'ailleurs un peu nombre à la fin, ou Jean Castex. C'était plus un collaborateur que quelqu'un qui dirigeait réellement la majorité. Cela dit, comme il avait l'Assemblée à sa main puisqu'il était en majorité, la question ne se posait pas. Là, c'est vrai qu'on peut se poser la question parce que Elisabeth Borne, qui est beaucoup plus techno que politique, il faut bien dire, risque d'avoir quelques difficultés, en effet, peut-être, à tenir ses rangs. Deuxième chose, c'est vrai que ça serait extrêmement mal perçu si non seulement vous passiez outre le vote de confiance à l'Assemblée, et si par ailleurs, vous usiez aussi de cette possibilité pour la présidence de la Commission des Finances en participant au vote pour élire le président de la Commission des Finances.
Des questions,
franchement, ces deux questions-là seraient quand même assez problématiques parce qu'on dirait que vous réfugiez quand même derrière des possibilités.
Je voudrais juste votre réaction, Sébastien Chenu, sur un autre sujet. Monsieur Martinez, le secrétaire général de la CGT, affirme qu'il est hors de question pour la CGT de participer à des réunions de niveau national où il y aurait des représentants du Rassemblement national.
Mais enfin,
c'est-à-dire
monsieur...
que toutes les réformes importantes, s'il y a un représentant du RN, il n'y participe pas.
Mais monsieur Martinez va devoir s'habituer à ce qu'est la démocratie. Je sais que, tant que vieux communiste, ça ne doit pas lui dire grand-chose, mais c'est la vie. Et d'ailleurs, je suis même sûr qu'il y a des gens à la CGT qui votent pour le Rassemblement National. Donc il devrait d'abord regarder autour de lui, parce que je suis persuadé que dans son environnement assez proche, il y a des gens qui nous apportent assez régulièrement leur suffrage. Pour le reste, tout ça est ridicule. Monsieur Martinez, il est sur le départ de toute façon, et il a mis en route quelqu'un pour lui succéder. Tout ça, c'est de la polémique stérile, mais ça en dit long sur le rapport que ces gens ont à la démocratie. Ils ne veulent pas de liberté pour ceux qui ne pensent pas comme eux. Les Français savent leur faire payer avec leurs 13 députés communistes. Les Français leur ont envoyé la réponse.
La normalisation du RN n'est pas complètement achevée?
Oui, pour M. Martinez, c'est sûr. Mais pour moi, M. Martinez, il ne sera jamais non plus un leader syndical tout à fait normal avec ce genre de propos.
Fabien Roussel arrive en ce moment à l'Élysée. Marine Le Pen a donc terminé son entretien avec le président Macron. Peut-être qu'elle s'exprimera à la sortie. François Patria, c'était un geste d'ouverture de recevoir les chefs de parti comme ça, de la part d'Emmanuel Macron?
Je crois que c'est un moment important. D'abord, c'est un geste très républicain. Si on veut bien comprendre ce que demandent les Français. Les Français disent, le président a-t-il entendu le message qui lui a été envoyé? D'ailleurs, on dit ça à chaque fois. Et c'est difficile de discerner le message, parce qu'il est parfois contradictoire entre ceux qui votent pour la NUPES et ceux qui votent pour le Front National. Donc, le message, retrouver la synthèse du message, faudrait sans doute un synthétiseur qui le fasse bien. Bon,
c'est l'arroseur arrosé, c'est le R en même temps.
Bon, très bien. Alors, donc, non, parce que là, en même temps, c'est pas cela, on l'a défini tout à l'heure. Bien. Maintenant, il reçoit, parce qu'il veut dire, bon, avant de commencer la partie, je parle pas que c'est un jeu, hein, je parle de la partie politique, bien entendu, je veux savoir quel est votre état d'esprit. Est-ce qu'il va leur proposer, je crois, les textes, enfin la nature des textes, l'esprit des textes qui vont être posés, sur ces textes-là, quelle sera votre position, quelle est votre appréhension? Il va leur dire, je trouve que c'est très républicain, et à partir de là, il peaufinera son gouvernement, et en Conseil des ministres, on préparera les textes à partir de ce qu'il a entendu.
Probablement, il s'agit quand même d'une lecture extrêmement monarchique de la Constitution, parce que comme on parle, me semble-t-il, encore une fois, d'une majorité parlementaire et pas de la majorité présidentielle, il aurait été plus logique quand même que la chef de la majorité parlementaire soit celle qui reçoive justement les partis, parce que c'est elle qui aura à travailler avec eux. Et M. Macron s'expose d'une certaine manière, parce qu'il reconnaît que c'est lui qui ne l'a pas, cette majorité-là.
Et il dévitalise sa première ministre.
Alors qu'il a la légitimité de la présidentielle. C'est une vraie contradiction.
18h30 sur Europe 1 et sur CNews, on rappelle des titres de l'actualité. L'été. Isabelle Piboulot.
Emmanuel Macron s'est entretenu avec le secrétaire général de l'OTAN à l'Élysée. Une rencontre en amont du sommet prévu à Madrid du 28 au 30 juin prochain. Le président de la République a redit son soutien à la Finlande et la Suède dans leur choix de rejoindre l'Alliance. Il souhaite également demander de la clarté à la Turquie quant à son positionnement sur le sujet. Consensus total des ministres des 27 pour la candidature de l'Ukraine à l'Union européenne. Déclaration de Clément Beaune. Des discussions se sont tenues entre les ministres des Affaires européennes réunis à Luxembourg deux jours avant un sommet sur le sujet où les 27 se prononceront sur le statut de l'Ukraine. Grève de train historique au Royaume-Uni, elle a commencé aujourd'hui et se poursuivra jeudi et samedi. Plus de 50 000 cheminots sont vent debout, ils réclament de meilleurs salaires et conditions de travail. Les syndicats dénoncent aussi des milliers de licenciements prévus par les compagnies ferroviaires privées. Il s'agit de la plus grosse perturbation du rail depuis plus de 30 ans dans le pays.
h 31 sur CNews et sur Europe 1. Une toute petite pause, on se retrouve avec nos invités. Encore un tout petit mot de politique, mais on parlera aussi du Stade de France. Ça n'en finit pas, le fiasco du Stade de France. Aujourd'hui, c'était les responsables de l'UEFA qui étaient reçus par la commission d'enquête du Sénat, et aussi les supporters. On les entendra. C'est pas piqué des hannetons, hein, tout de suite.
Europe 1, Punchline, Laurence Ferrari.
On se retrouve dans Punchline sur CNews et sur Europe 1 avec nos débatteurs François Patriat, sénateur de du groupe La République En Marche. Nous sommes avec Sébastien Chenu, député Rassemblement National du Nord, Jean-Sébastien Ferjou, Tatiana Renard-Barzac. On va continuer à parler politique, mais avant ça, j'aimerais quand même faire un petit détour par le Stade de France. Parce que, je vous le disais, les auditions se poursuivent au Sénat après le fiasco du 28 mai dernier, avec toujours des surprises. Là, on va entendre l'UEFA qui a juste rappelé qu'il n'y avait absolument pas 30 ou 40 000 faux billets ce jour-là, mais peut-être 2600 au grand max. Et puis surtout, il y avait des supporters qui se sont exprimés. Écoutez-les avec Jeanne Cancard.
En quelques secondes, Martine Callen, directeur général des événements de l'UEFA, démonte devant le Sénat les chiffres avancés il y a trois semaines par Gérald Darmanin.
On sait aujourd'hui qu'on a eu autour de 2600 billets qui étaient faux.
Et même si quelques milliers d'autres faux billets n'ont sans doute pas été scannés d'après l'organisation, ces chiffres approximatifs restent bien en deçà de ceux annoncés par les autorités françaises, qui les estimaient à 35 000. Le 28 mai dernier, dans la foulée du chaos de la soirée, Gérald Darmanin avait jugé les supporters britanniques responsables des incidents. Aujourd'hui, toujours devant le Sénat, les associations anglaises sont venues livrer leur version. Ted Morris est le président de l'organisation des supporters handicapés de Liverpool. Il a recueilli près de 9000 témoignages de mauvais traitements lors de cette soirée.
Les supporters handicapés ont été traités comme des animaux. Il faut que les autorités acceptent leurs responsabilités, sans quoi je pense que les JO ne pourront pas se dérouler ici. Je voudrais dire au ministre de l'Intérieur qu'il a humilié les habitants de Paris. Il est la honte du gouvernement, il a menti et cela a amplifié notre douleur et notre traumatisme.
L'enquête indépendante commanditée par l'UEFA devrait rendre ses conclusions en septembre.
C'est assez cinglant, cette histoire du Stade de France. Sébastien Chenu, le ministre de l'Intérieur, est la honte du gouvernement. Il a humilié les supporters. C'est ce que dit ce supporter anglais, enfin ce chef des supporters anglais.
C'est surtout un menteur totalement incompétent qui s'est réfugié derrière des mensonges au prix de risquer une crise diplomatique, d'ailleurs avec la Grande-Bretagne, c'est-à-dire totalement en dehors de l'intérêt supérieur de la France. Je ne comprends pas que lorsqu'on est ministre de l'Intérieur, on mente aussi vulgairement pour un événement qui a été finalement si mal géré, si mal anticipé. Il y a des problèmes, qu'il y ait des problèmes de billets, il y en a tout le temps, hein, des problèmes de billets. Qui n'est pas allé à un concert où on essaye de nous vendre des faux billets à l'extérieur. Cet événement a été un fiasco et Gérald Darmanin, plutôt que d'assumer ce fiasco, car quand on fait de la politique, on assume, même quand ça ne va pas, on assume et on en tire les conséquences, eh bien il a menti aux Français, il a menti aux médias, il a menti à la représentation nationale. Je pense que c'est le degré zéro de la politique à ce niveau-là.
François Patriat, ça a été un
déroulé... Il y a le sens de la mesure, non ? Il y a le sens de la mesure.
Alors,
j'entends les supporters, j'entends ce que vous dites là. Je pense que l'outrance n'est pas seulement dans le cas de l'EFI. Moi, je vais vous dire que
c'est
deux
grave
choses.
De mentir
deux
à ce point-là.
Non, il n'a pas menti.
30 à 40 000 faux billets, c'était le chiffre évoqué.
Première chose, je voudrais rappeler qu'il y a eu, après cet état de lieu désagréable, dramatique, même si on peut le penser, la commission d'enquête, pas d'enquête, la commission d'information de l'Assemblée du Sénat est allée sur le site à deux jours des élections pour se prononcer sur ce qui est de toute façon inédit, mais on n'avait jamais vu ça. On voit bien la manœuvre politique du Sénat pour le faire. Maintenant, contenant les billets.
Je vous rappelle. Il y en a qui a majorité LR, on le rappelle. Hein.
Deuxième chose, regardez,
votre
ce matin,
IR.
L'UEFA, écoutez-moi bien, l'UEFA a elle-même assuré ce matin devant la commission des lois et de la culture que la plupart des supporters de Liverpool ne disposaient pas de billets pour ce match.
D'accord, mais c'est pas forcément...
Non, vous voyez...
Mais là, on vient de l'entendre, il a dit 2600,
2006. Non, mais l'UEFA vous dit que c'est pas le chiffre, non. Il y a peut-être pas 30 ou 40 000, mais il y a beaucoup plus de 1600.
Mais il n'y avait pas lieu. Non plus le nombre de membres de forces de l'ordre sur le terrain.
6800.
Par
6800 forces de
l'ordre. Ça n'est pas ce que disent les registres, bah,
écoutez,
a priori.
Moi, j'ai le chiffre de ministre ce matin. 6800
policiers.
Personnes. 6800. Okay. Non, policiers, gendarmes et pompiers.
D'accord.
Non,
mais okay. Le nombre n'explique 6, pas.
6800. Attendez, bon, est-ce que vous pensez que
l'organisation ne et fonctionne que, pas, c'est pas une histoire que de nombre, d'ailleurs.
Avec quel autre club, de quels autres pays, y a-t-il des problèmes? Citez-moi, dites-moi.
Mais c'est
en fait. Dites-moi. Donc, ne faites pas porter. Je vous dis que 6800 personnes peuvent le faire.
C'est un problème avec les Britanniques.
Non, mais. Non, mais je veux dire,
encore une fois, c'est la théorie
que les supporters britanniques. Attendez, on peut bien insulter.
Écoutez,
un supporter britannique peut bien insulter le gouvernement français ou les Français. Permettez-moi d'avoir des réserves contre le comportement des supporters britaniques partout. C'est vrai ou c'est pas vrai?
Des milliers de témoignages de ces supporters qui ont été brutalisés, volés, pillés. Mais monsieur Patria, vous ne pouvez pas dire que c'est la faute des supporters anglais. Laissez-moi juste terminer, Jean-Sébastien. Ce n'est pas possible de dire ça. Pas aujourd'hui. Pas après les témoignages.
Regardez,
les 9000 témoignages
regardez, dans les fan zones qui ont été improvisées. Dans un moment, ça s'est très bien passé.
Mais donc,
ça c'est
pas la faute des Anglais.
Parce qu'il y avait des gens qui ne devaient pas être là en surnombre, il a fallu y avoir des gens écrasés.
Il y avait des gens les yeux ouverts, c'est pas ça. C'est des hordes de voyous qui étaient aux abords, etc. Enfin, je veux dire, les gens ont les yeux ouverts. Et Darmanin qui vient de dire c'est la faute. Alors, un coup, c'est la faute des grévistes de la RATP. Un coup, c'est la faute des Britanniques. Un coup, c'est la faute des tourniquets. Ça va.
Non, mais juste les faits, parce que les faits sont importants quand même. Il y avait. Juste, et vous pourrez répondre là-dessus. Il y avait 19 points de contrôle pour les supporters espagnols qui n'arrivaient pas par le même côté, la grève de la RATP a fait qu'il n'y avait aucune signalisation pour canaliser les foules et qu'il n'y avait que 3 points de contrôle. Si les Espagnols étaient passés à travers 3 points de contrôle, il y aurait eu le même problème du côté des Espagnols. Ça, c'est la première étape du sujet. Et la deuxième étape était de toute façon la délinquance. Et il n'y avait pas suffisamment de policiers. Donc le sujet, c'est pas que Gérald Darmanin soit incompétent, c'est pas à lui d'organiser les choses. En revanche, incontestablement, il y a un défaut de culture de responsabilité dans ce pays. Parce que je ne comprends pas comment vous pouvez vous dire qu'il serait malvenu qu'une commission d'information parlementaire essaye de s'informer sur un sujet qui, pardon, c'est un concentré, c'est pas anecdotique, c'est un concentré de toutes les failles de l'État français. Alors, vous n'en êtes pas responsable, ou le gouvernement n'est pas responsable des 40 années qui nous ont menés là en matière de contrôle des flux migratoires, de politique d'ordre, enfin, ou de maintien de l'ordre tout simplement dans le pays. Mais on ne peut pas nier ça, on ne peut pas refuser aux citoyens français la lumière sur ce qui s'est passé ce jour-là.
François Patriat.
Le préfet allemand a lui-même devant la commission dit qu'il y a eu des carences, qu'il y a eu des lacunes et qu'il y a eu des maladresses. Il l'a dit. Il n'a pas dit que c'était bien. Mais il a dit que les moyens que nous avons mis en place étaient de nature à permettre la sérénité dans le déroulement de l'épreuve. C'est 1800. Il y a eu des débordements parce qu'il y a eu des afflux. C'est vrai que la grève du RER n'a pas arrangé
les choses. Et c'est rebelote vendredi pour le match au stade.
Les matchs qui ont eu lieu autrement se sont très bien passés autour. Vous avez vu ? Il y a eu d'autres matchs qui se sont passés avec autant de spectateurs et ça s'est très bien passé.
Il y a une question, pourquoi mentir ? Pourquoi Gérald Darmanin ment à ce point sur le nombre des billets, sur la responsabilité des uns et des autres ? Sur le nombre de faux billets, il a menti.
Expliquez-moi pourquoi les Espagnols demandent seulement de 40% de billets papier alors que les Anglais demandaient tous des billets papier pour les falsifier.
C'est la faute des Anglais. Alors, Tatiana, vous vouliez dire un tout petit mot sur ce fiasco du 16 juin. Parce que moi, je pense que ça a eu un impact sur le scrutin législatif. Mais moi, je pense que si, monsieur Patriat, je pense que vous vous trompez. Tatiana.
Mais personne ne m'a parlé de ça dans le pays. Personne.
Ça n'a pas choqué vos électeurs ?
Je vous assure. Moi, j'ai parcouru 10 départements. J'ai fait des réunions tous les soirs. Personne ne m'a parlé de ça. Jamais
personne. D'abord, quand on voit le rapport de Michel Cadot, délégué interministériel à l'organisation des événements des grands événements des JO, et quand on lit dans son rapport qu'il explique qu'en fait c'est lié au trop grand nombre de faux billets qu'il y a eu un dérèglement, et qu'on se rend compte qu'en fait c'est pas 30 à 40 000 mais 2600 billets, c'est vrai qu'il y a un souci.
Il n'est pas plus vrai que 30 000.
Bon, alors en ce cas-là, qu'est-ce qui est vrai? Parce qu'à un moment donné, pardon, on commence à être un petit peu perdu. Deuxième chose, ce qui aurait pu nous prouver cela, ce sont les vidéos, et les vidéos malencontreusement ont été effacées automatiquement et au Stade de France, à la RATP, à la SNCF.
Pas celle de la police.
Mince.
Mais alors, c'est ça qui est très intéressant, si vous voulez. C'est quand on voit la préfecture de police qui tweet en disant « Nous avons les images de police, c'est à ne pas confondre avec les images du Stade de France. » On aurait aimé avoir toutes les images pour pouvoir avoir justement la diversité des points de vue des caméras. Ça aurait été pas mal. Mais ce que je veux vous dire, c'est que je pense franchement, François Patriat, que cette histoire, elle a eu une incidence sur les élections. Parce que L'audition du ministre à la commission des finances, à la commission sénatoriale justement, elle a montré qu'en fait, il ne prenait pas ses responsabilités, qu'il était en déni, qu'on jouait sur les chiffres, qu'on mentait encore une fois aux Français. Et l'histoire des vidéos a été catastrophique, sincèrement, en termes de paroles politiques. Et puis par ailleurs, je pense que la façon de la stratégie de maintien de l'ordre qui a été adoptée là ce soir, où on a laissé gazer des familles et pas su contenir la délinquance par ailleurs à côté, et donc des gens qui se sont fait dépouiller, violenter, voire violer aux abords du stade, c'est un souci parce que les gens ont gardé aussi en tête l'image des gilets jaunes et de cette violence. Et puis par ailleurs, l'image internationale est absolument désastreuse, il faut le dire.
Alors,
aussi.
Alors François Patria, votre réponse.
Écoutez,
cette accusation,
c'est un tribunal, mais il faut revenir dans les faits. Moi, je n'empêche pas le Sénat de faire une commission d'information. C'est la façon dont il l'a traité et d'aller à la veille des élections... se présenter sur le site pour donner l'état des lieux de la...
Alors vous nous l'apprenez, ça n'a pas dû avoir un grand impact sur l'élection.
Mais moi je ne l'ai pas...
Mais ça, il faut que vous y fassiez, parce que là, avec les oppositions, vous allez avoir...
En second lieu, concernant les caméras, parce que j'entends dire la responsabilité... Mais sur les caméras du stade, l'État n'y est pour rien. Ces autorités sportives, rien. L'État, il est responsable à travers la police.
Qui fait les réquisitions judiciaires?
Mais qui a demandé?
L'autorité judiciaire. C'est pas le Stade de France, c'est pas l'UEFA qui fait les réquisitions judiciaires.
Vous n'a pas semblé que la justice est indépendante?
Si, mais il m'a Il m'a semblé qu'après l'audition du responsable du Stade de France, expliquant qu'il avait vu ces vidéos qui étaient extrêmement violentes, mais que malencontreusement, elles avaient été automatiquement effacées, il me semble qu'en écoutant cette audition, les autorités judiciaires auraient pu peut-être avoir la puce à l'oreille et se dire peut-être qu'il fallait saisir justement ces vidéos.
Donc l'État,
quoi, cela n'a pas été
l'État
fait,
doit donner des ordres à la justice, j'entends bien. Et en second lieu, la seule responsabilité de l'État pour l'image, c'est celle de la police. Là, il en est responsable.
La justice, c'est l'État,
Bien sûr que l'État peut donner des ordres parquet. Il ne s'agit pas de donner une instruction dans une affaire individuelle en disant « faites emprisonner bidule ou machin ». Et quoi qu'il en soit, ce qui est particulièrement perturbant, c'est que les réquisitions n'ont pas été faites. Admettons que ce soit de l'incompétence. Mais derrière, on aurait pu faire d'autres réquisitions. Puisqu'on le sait, des images qui sont effacées, elles ne sont pas forcément définitivement écrasées. On peut encore les récupérer. Est-ce que ces autres réquisitions ont été prises?
Apparemment, elles étaient détruites.
Et donc les images de la police, on va pouvoir les avoir, les médias qui tenaient
les images à disposition de la justice, il l'a dit.
Sébastien Chenu.
Oui, sur cette affaire, rien n'a été bien géré. Et je vous le dis, moi, le problème, c'est que à la fin, le ministre de l'Intérieur se défausse, il ment, et c'est pas du niveau d'un responsable politique. Quand on est ministre de l'Intérieur de la France, on ne se défausse pas, on n'est pas en train de raconter des balivernes, on raconte pas n'importe quoi, on endosse ses propres responsabilités. On se défausse pas non plus sur un préfet si contestable par ailleurs. On endosse ses propres responsabilités, on ne ment pas et on ne provoque pas des crises avec d'autres pays. Enfin, je veux dire, c'est l'image de la France. Ce qui s'est passé, c'est pas anodin au Stade de France. Et puis, ça montre que c'est risqué pour des familles maintenant d'aller voir un match. S'ils prennent un risque pour leurs gosses, pour leur famille, bah, quelle triste image de notre pays. Et puis d'un ministre de l'Intérieur, menteur, mais impuissant. Non. Et incompétent.
Et peut-on vous poser une question?
Je vous laisse à vos outrances.
Non, mais peut-on vous poser une question?
Quand
monsieur Darmanin parle de propos nauséabonds pour tous ceux qui s'inquiétaient de la délinquance qui peut exister autour du Stade de France, est-ce que cette inquiétude-là vous paraît relever de, je ne sais pas quel est le substantif de nauséabond, mais de quelque chose qu'il serait? Ou est-ce que ça n'est pas quand même le droit légitime des Français, a fortiori dans une campagne électorale, que de se poser la question, peut-être d'ailleurs, de la proposition de politique pénale qui sera celle du gouvernement, parce que non seulement il y a eu ce défaut du Stade de France, mais malheureusement il n'y a eu aucune proposition politique qui aurait pu dire, bon ben oui, ça, il y a un certain nombre de choses qui ont dysfonctionné par un enchaînement de choses, et d'ailleurs il y a la responsabilité de l'UEFA et de la FFF qui ont été largement mises sous le tapis alors qu'elles sont assez accablantes. Mais il y aurait pu au moins avoir des propositions en face. Quand vous dites que ça n'a pas impacté les Français, si, je pense que le fait qu'on leur dise, vous vous préoccupez de délinquance et ou d'immigration non contrôlée, de l'impact que ça peut avoir ou des défauts de l'intégration, c'est juste nauséabond, je pense que ça a un impact politique.
Je n'aime pas le raccourci que vous faites entre la délinquance et l'immigration. Mais je n'aime pas ça.
Mais vous venez de le faire. Endroit,
vous venez de le faire.
Laissez répondre. On parle
de la délinquance dans la République.
Vous l'avez dit. Vous faites, bon, ok. Alors, d'abord, le gouvernement, d'abord, un, le ministre n'a pas menti, donc je ne vous autorise pas à dire cela.
Il a dit qu'il a donné. Il a donné. Il a donné. D'accord.
Mais vous le direz, vous serez sans doute plus cru que moi quand je dis ça, parce que si les gens ont tendance à vouloir.
C'est probablement plus crédible que de nier tout.
En second lieu, qu'il y ait des difficultés, qu'il y ait de la délinquance autour, je ne le nie pas. Que cette délinquance a peut-être été mal maîtrisée ce soir-là, je ne le nie pas non plus. De là à dire gouvernement menteur, impuissant, etc., je ne peux pas l'entendre comme tel.
Non, mais est-il nauséabond quand on est un citoyen que de s'en préoccuper ?
Et d'ailleurs, bien. Ensuite, c'est que les mesures ont été prises, les réunions ont été faites pour préparer à la fois la Coupe du Monde de rugby et les Jeux Olympiques en tirant les conséquences de ce qui s'est mal passé l'autre soir. Et j'espère qu'on saura les tirer. Et je fais confiance au gouvernement et à Darmanin pour le faire.
On avance parce que Gérald Darmanin aujourd'hui s'est félicité d'une décision du Conseil d'État qui a confirmé la suspension de l'autorisation du burkini dans les piscines municipales de Grenoble. Pour lui, c'est une victoire pour la loi séparatisme, pour la laïcité et au-delà pour toute la République. Vous saluez cette décision du Conseil d'État, Sébastien Chenu ?
Oui, bien sûr, mais je pense qu'il faut s'opposer. Il faut une loi contre l'islamisme dans notre pays. Il faut définir ce qu'est l'islamisme. On sait définir des idéologies dans notre pays. On a défini très bien des idéologies et on en a interdit les représentations. Pareil pour l'islamisme, l'islam politique. On le définit, on en interdit ses représentations. Ça fera partie des propositions que font les députés du Rassemblement national à l'Assemblée nationale. Une grande loi pour combattre l'islamisme dans notre pays.
François Patriat.
On ne peut pas dire qu'on se félicite ou qu'on ne se félicite pas. Moi, j'approuve. Mm-hmm. C'est différent. Je pense qu'à mes yeux, c'est une bonne décision. Parce qu'elle repose sur quoi ? Elle repose sur le fait que la décision prise par M. Piolle porte atteinte au principe de la neutralité des services publics. Qu'elle dit qu'en l'occurrence, le temps des services publics, parce que là, cette décision a été prise en période électorale pour faire plaisir à des communautés religieuses. Elle ne l'a pas été faite dans l'intérêt général. Il y a des problèmes qui se posent de salubrité autour, etc. Je trouve que c'est une décision juste parce qu'effectivement, la neutralité du service public n'est pas assurée.
Tatiana Arnaud-Marzac.
Oui, je suis d'accord. Laïcité, encore une fois, tout à l'heure je l'ai dit, quand Éric Piolle s'est réfugié derrière un argument en disant que c'est aussi une mesure de féminisme, en mettant sur le même plan la possibilité de venir à la piscine seins nus ou bien en burkini, j'ai trouvé que c'était quand même fou d'utiliser cette comparaison. Cela dit, par rapport à ce que vous disiez dans votre projet de loi, il me semble que vous allez au-delà de l'islamisme à proprement parler, parce que vous souhaitez interdire aussi le voile dans l'espace public, le port du voile dans l'espace public.
Non, nous souhaitons interdire le voile islamique, c'est-à-dire le hijab.
D'accord, uniquement, non,
vous tapez sur Google voile islamique et vous avez, apparaissent des photos très précises de
donc
ce qu'est un hijab.
Donc pas le foulard, on est d'accord.
Voilà, le voile islamique.
D'accord, okay.
Voilà.
Précision importante.
Jean-Sébastien Ferjou, Conseil d'État, qui annule la décision sur le burkini, ça va dans le bon sens ?
Bien sûr que ça va dans le bon sens, que c'est ce qui fera jurisprudence pour les autres municipalités qui seraient tentées de faire la même chose. Et surtout, ça clarifie le débat, notamment avec un Éric Piolle qui avait tendance à dire que et la décision du tribunal administratif, en première instance, relevait du fameux racisme systémique, j'aime pas ce qualificatif, mais l'islamophobie qui serait structurelle en France. Alors que c'est parfaitement faux, ça n'a rien à voir avec l'attitude que la France a de manière générale vis-à-vis de tous ceux qui sont français et musulmans, c'est vis-à-vis de revendications de militants politiques et de militants d'une idéologie qui n'est pas compatible avec les valeurs de la République et qui n'est ni démocratique ni républicaine. Et donc que ce débat-là soit clarifié et que M. Piolle ne puisse plus jeter de l'huile sur le feu en essayant de convaincre un certain nombre de Français musulmans que ce serait toute la France qui les rejette, absolument pas. Les Français, tout le monde a envie de vivre ensemble, quelles que soient les origines, quelles que soient les confessions. En revanche, on a le droit de refuser un militantisme d'une idéologie qui, encore une fois, n'a rien de démocratique.
Avec, si je peux me permettre, une petite réflexion, interrogation plutôt, sur l'activisme d'Alliance Citoyenne, qui est donc l'association qui, justement, œuvrait en coulisses et qui s'est réjouie de cette décision au moment où le maire de Grenoble a autorisé la burqa de bain dans les piscines municipales. Et donc, c'est vrai que là, il faudra quand même se poser la question de l'activisme de cette association, de son périmètre d'action
et
de ses ambitions aussi. Parce que quand on voit que, par exemple, son terrain de jeu au début était les hijabeuses, et vous avez tout à fait raison, et de ses subventions, bien évidemment, qui n'avaient jamais joué, la question se pose. Et quand on voit qu'aujourd'hui, avec la loi séparatisme, Gérald Darmanin a la possibilité de dissoudre justement des associations qui vont à l'encontre des intérêts de la laïcité et de la République, peut-être que la question pourrait se poser légitimement.
Voilà. Vous voyez qu'il faut
Darmanin. Le mot de la fin. Le mot de la fin pour vous. Darmanin, voilà.
J'entends que M. Darmanin fait parfois, quand même, malgré tout ce que j'entends sur ce plateau, des choses pas mal et qu'il l'a fait. Voilà.
Merci à tous les quatre d'avoir participé à Punchline. Sébastien Chenu du Rassemblement National, Tatiana Renard-Barzac, François Patriat, La République Merci. En Marche et Jean-Sébastien Ferjou. Je vous retrouve dans un instant sur Europe 1 pour la suite de nos débats de Punchline. Et sur CNews, c'est Christine Kelly qui vous attend avec ses invités pour Face à l'Info. Bonne soirée sur nos deux antennes.
Europe 1. Punchline. Laurence Ferrari.
On se retrouve en direct dans Punchline avec nos débatteurs. Louis de Ragnel, chef du service politique d'Europe 1, est là.
Bonsoir, cher Laurence.
Guy Lenotenheimer nous fait le plaisir de sa présence.
Bonsoir, Laurence.
Du magazine Challenge et Amine El Khatmi, essayiste.
Bonsoir, Laurence.
Ravi de vous voir aussi en ce surlendemain d'élection législative. Alors, je vous le disais, Emmanuel Macron a tenté de reprendre la main. Aujourd'hui, il a reçu une partie des responsables des formations politiques qui seront présentes à l'Assemblée nationale. Il y aura une autre partie qui sera reçue demain. Le président, que leur a-t-il dit au fond ? Est-ce qu'il tâte le terrain ? Est-ce qu'il essaie de trouver des coalitions, des accords sur certains textes ? Marine Le Pen a été reçue. Elle est sortie il y a quelques minutes. Écoutez ce qu'elle en dit.
J'ai rappelé au chef de l'État que le groupe de 89 députés que j'ai l'honneur de présider est un groupe qui est dans l'opposition, mais ne souhaite pas être dans l'obstruction systématique. Voilà, nous souhaitons travailler pour améliorer la vie des Français et l'avenir de nos enfants. Par conséquent, si des mesures sont proposées qui vont dans le bon sens, comme nous l'avons fait pendant 5 ans, nous les voterons. Si elles vont dans le mauvais sens, nous les amenderons. Et si elles ne sont pas amendées telles que nous le souhaitons, eh bien nous nous y opposerons. Nous sommes des députés responsables et encore une fois, nous avons été mandatés par les Français pour répondre aux problèmes qui sont les leurs.
Voilà pour Marine Le Pen, à la sortie de l'Élysée, Guy Lenotenheimer. Elle joue la partie à fond, là, évidemment, avec un groupe de 89 députés.
Le principal enjeu pour le Rassemblement national, c'est la crédibilité, c'est la notabilité. C'est donc, il ne rêve que d'une chose, c'est de rentrer dans le deal général. Ça en dit beaucoup sur le Rassemblement national, mais c'est assez clair, c'est assez net, et ça correspond effectivement à la bonne stratégie. En revanche, on dit beaucoup aussi sur Emmanuel Macron. C'est-à-dire qu'il est toujours dans cette idée d'avoir des coalitions, des majorités de projets. Quand, sous Rocard, vous aviez un écart de 14 ou 15 députés, bon, c'était difficile, mais enfin, il y avait les communistes avec qui ils avaient déjà gouverné, des centristes qui étaient proches de Rocard. Trouver une quinzaine de personnes, ça allait. Mais là, c'est 44. Donc 44, si vous passez votre temps à piocher à droite, à gauche, vous n'allez pas y arriver. Parce qu'un jour, ça va pencher à droite, mais les gens diront « Non, mais la prochaine, j'en ai marre, je me suis fait avoir, il a été trop à droite, moi, je ne voterai même pas une réforme de gauche. » Donc je pense que quand même, là, on doit arriver, ce que dit Édouard Philippe, on doit arriver à un système d'une forme de coalition. On est un régime parlementaire aussi. Et c'est bizarre que ce soit d'ailleurs Emmanuel Macron qui fasse cette démarche auprès des chefs de parti, parce qu'en principe, c'est son futur Premier ministre à qui il devrait demander de former une majorité.
Peut-être y a-t-il une incertitude sur le Premier ministre. Amine El Khatmi, sur la tactique du Front National, du Rassemblement National, pardon.
Oh ben je partage complètement ce qui vient d'être dit. L'enjeu pour le RN dans les prochaines années, c'est de montrer pas un mot plus haut que l'autre, le sérieux, on travaille.
Un parti de gouvernement.
Un parti de gouvernement avec Madame Le Pen au milieu, entourée de ses parlementaires, pour que dans 5 ans, elle puisse expliquer que elle a des ministres, elle a un gouvernement. C'est le reproche qui lui était fait souvent, y compris dans la dernière campagne, de dire mais Madame Le Pen, vous n'avez pas de hauts fonctionnaires, vous n'avez pas de ministres, on ne sait pas avec qui vous allez gouverner le pays. Donc on voit bien qu'il y a deux pôles d'opposition qui vont avoir des stratégies différentes. Rentrer dans le jeu institutionnel, se mouler dans le système, ce qui est paradoxal pour les uns, et en face, LFI et la NUPES qui vont être sans doute dans une stratégie beaucoup plus offensive. On a vu, ils sont rentrés au champ des Gilets jaunes ce matin à l'Assemblée nationale. On est là, même si Macron ne veut pas, nous on est là. Donc ça ne dessine pas une opposition de gauche qui va apaiser et raisonnable.
Louis de Ragnel, sur ces deux sujets, RN et NUPES.
Moi, je trouve que, effectivement, enfin, je n'ai pas un mot à ajouter par rapport à ce que vous avez dit tous les deux. On voit clairement que la NUPES est dans une logique de confrontation violente, voire brutale. D'ailleurs, les mots sont extrêmement forts. Moi, je me souviens quand même de la phrase de Jean-Luc Mélenchon, je crois que c'était le lendemain, c'était lundi, donc en début de semaine, qui explique que son objectif unique, c'est de faire tomber Macron en un mois. Enfin, vous voyez, c'est la brutalité, le choc des mots. Et de l'autre côté, quand même, je trouve qu'Emmanuel Macron donne des bâtons pour se faire battre. Parce qu'en fait, il continue de jouer la stratégie du pourrissement. Mmh. Il est en train de mettre en place la stratégie classique qu'on a déjà vue beaucoup de fois par le passé. Dès qu'il y a une crise, alors là, c'est la première fois qu'il y a une crise politique de cette nature, mais crise sanitaire, crise sociale, à chaque fois c'était pareil. Donc on reçoit les chefs de parti à l'Élysée. Ensuite, il met en scène, la remise en selle d'Elisabeth Borne à Matignon, qui réunit les ministres de son gouvernement, donc à Matignon. C'est la première fois que je vois des ministres battus.
La pauvre Madame Bourguignon.
Mais c'est la première fois qu'on voit un bon équilibre, en tout cas, entre le président et le Premier ministre depuis au moins 6 ans. Ou c'est la première fois qu'on voit la Première ministre qui est réunie autour d'elle tout son gouvernement. Normalement, ça se passe plutôt au Conseil des ministres. En fait, on voit qu'Emmanuel Macron cherche l'espèce de trou de souris pour sortir de cette crise. Mais du coup, en recevant les patrons de partis politiques, ce qu'il cherche, c'est à transférer son propre problème politique vers ses opposants. Parce que qu'est-ce qui va se passer ? Qu'est-ce qui s'est passé ce soir, par exemple, au bureau politique des Républicains ? Eh bien, les Républicains, même s'ils expliquent que leur ligne est très claire, en fait, elle n'est pas très claire. Parce qu'ils disent, nous, on est dans une opposition constructive, mais pas d'alliance. Mais ils ne nous disent pas sur quel texte ils sont prêts à voter ou à ne pas voter dès que le texte sera proposé par le gouvernement d'Emmanuel Macron.
Pareil pour le Rassemblement national. Sur le pouvoir d'achat, il faudra voter, pas voter.
Alors, je pense que le RN peut plus facilement, entre guillemets, afficher une opposition à Emmanuel Macron, mais le problème se pose réellement pour notamment les Républicains et le Parti Socialiste. Mmh. Et donc, il transfère son problème à lui vers les autres pour montrer que ce sont les autres, pour essayer de montrer sa stratégie.
Le problème, il est encore bien chez lui.
Je suis entièrement d'accord avec vous. Et d'ailleurs, moi, je ne comprends pas, parce qu'on voit bien la finalité ultime. Ce qu'il souhaite faire, c'est faire en sorte que son gouvernement va proposer des textes à l'Assemblée. Ils seront parfois mal votés, ou alors il y aura des demi-mesures. Et son objectif, c'est qu'à terme, les Français se disent « c'est horrible, le pays est bloqué, il n'y a rien qui fonctionne ». Et que face à ce pourrissement réel de la situation, éventuellement, les Français en appellent à la dissolution de l'Assemblée nationale. C'est son pari. Non, mais c'est ce que nous disent les conseillers. Et moi, je trouve qu'elle est complètement erronée. Ouais. Parce que la responsabilité de cet échec politique, c'est Emmanuel Macron et lui seul. C'est-à-dire qu'autant la crise des Gilets jaunes, il y avait un déclencheur politique, mais il y avait plein d'autres paramètres.
Et qu'il y ait quelques textes votés, il faut vraiment que ces textes soient votés, parce que là, on entre dans quelque chose de totalement illogique. Vous prenez les insoumis. Vous devrez voter la loi sur le pouvoir d'achat, parce qu'on donne de l'argent. Ah, ils disent, oui, nous, on est d'accord, mais nous, il faut que ce soit financé. Et pour que ce soit financé, nous, on fait payer les riches. Mais financer sans faire une prime sans la financer, nous, on veut pas. Et à chaque fois qu'il y aura un vote, ce sera parce qu'un programme, c'est un ensemble de choses. Il y a le financement, il y a l'équilibre,
mais ça ne marchera pas.
Donc ça peut pas marcher. C'est pour ça qu'il est obligé d'avoir un accord de gouvernement. Mais il n'en veut pas.
Il change pas un ministre de son gouvernement. Non, mais c'est quand même incroyable. Il n'a pas encore pris la parole. Et donc, il va parler demain. Elisabeth Borne, demain. Alors, je sais, oui, il va parler demain.
C'est une équation infernale à laquelle fait face Emmanuel Macron. On dit qu'il manque 45 voix, mais ça suppose que les 245 voix de la majorité fassent bloc.
Ce qui n'est pas
ça veut dire qu'il n'y a pas de frondeurs, de déserteurs, de gens qui ont envie d'aller aux toilettes parce qu'ils sont gênés au moment de voter.
C'est pas horizon,
le grand classique. Ça veut dire que les 29 amis de M. Philippe soient là jusqu'au bout. Imaginez qu'il y ait un accord avec LR. La quarantaine, cinquantaine d'anciens socialistes, amis de M. Dussopt, ex-amis de M. Ferrand ou de M. Castaner, qui sont quand même bien là, qui sont des anciens socialistes. Il y en a même un qui est un ancien Europe Écologie Les Verts. S'ils voient d'un coup arriver Christian Jacob, Mme Genevard et quelques autres, ils ne vont pas l'accepter. Donc, quand on dit qu'il manque 45 voix, il manque 45 voix à condition que la majorité n'en perd pas une seule.
Allez,
c'est
petite pause. On se retrouve dans un instant. Gardez-en sous le pied. On continue le débat dans un instant. À tout de suite.
Punchline sur Europe 1, Laurence Ferrari.
On se retrouve dans Punchline sur Europe 1 avec Louis de Ragnel, Guylaine Ottenheimer de Challenge Amine El-Khatmi. On va écouter François Bayrou, parce qu'il est proche du président de la République, évidemment, on le sait, et il pense même que la situation politique présente, cette espèce de chaos qui va s'installer à l'Assemblée nationale, finalement, c'est stimulant pour Emmanuel Macron, écoutez-le.
Je pense qu'il est très intéressé par les défis de la période. Je pense que depuis 5 ans, il a souvent approché ces questions. Pendant le grand débat, par exemple. Souvent approché ces questions. Et il a aujourd'hui sous les yeux un paysage qui fait que nul ne peut plus ignorer les questions qu'il avait en tête pendant toute cette période. Et je pense que, encore une fois, je risque, peut-être qu'il ne sera pas d'accord, je pense qu'il trouve ça stimulant.
Ghislaine Oettingen-Heimer, est-ce qu'on peut trouver ça stimulant?
C'est un peu pathétique. On est quand même dans une situation hyper tendue, hyper grave, avec plus de la moitié du Parlement qui est occupé par des gens qui ont des positions ingérables, extrêmes, et qui répondent à la misère des gens. Mais il y a aussi des gens qui râlent tout le temps. On a un pays qui est mal dans sa peau. On a des institutions qui ne fonctionnent plus. La cinquième, elle est morte. Ça fait un moment qu'elle est morte. Tout le monde le sait et tout le monde s'accroche. Elle est trop verticale. Ce pouvoir central qui s'appuie sur la technostructure et qui n'écoute pas les gens, qui n'a pas de bon sens, qui fait des textes qui sont complètement déconnectés de la réalité. Mais toute la France le sait. Il n'y a que ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui et qui détiennent le pouvoir qui ne le savent pas. Et alors on continue à faire semblant. Alors c'est très intéressant intellectuellement, on s'en fiche, il faut qu'il prenne une décision vite, et là c'est la fin du en même temps. Mais il ne veut pas lâcher, lui en même temps. Là il va falloir qu'il fasse une coalition, il faut faire comme ça se fait dans tous les pays d'Europe, vous n'avez pas la majorité tout seul, et bien c'est pas grave, vous avez des gens avec qui... Valérie Pécresse disait que Macron avait photocopié son programme, donc ils ne sont pas si loin que ça quand même. Pour les Français, la barrière elle n'est pas énorme, on comprend qu'avec la NUP ou avec le Rassemblement National c'est un peu loin, mais franchement avec les Républicains, c'est pas une grosse rivière, hein. c'est un tout petit ruisseau à traverser. Donc voilà, on se dit mais ils sont enfermés dans leur posture de pouvoir. Je me suis pas trompée. Et le en même temps, j'abandonne pas, etc. Mais si, il faut qu'il abandonne le en même temps ou alors qu'il élargisse et qu'il y ait une vraie discussion entre toute sa majorité, Horizon, Modem et puis LR, et qu'on arrive à avoir un pays qui est gouvernable.
Il y a quelque chose de profondément gênant avec le mot stimulé. On est quand même en train de parler d'un pays qui a connu des crises graves, qui est en train sans doute de vivre une crise politique, parce que la réalité, c'est qu'on vit une crise politique. Et le mot stimulé qui renvoie au plaisir, au jeu, à quelque chose d'un peu... Non, c'est grave ce qui est en train de se passer. Donc on attend des responsables politiques de surcroît, lorsque ce sont des proches du président de la République, des dirigeants de la majorité, de la gravité, de la hauteur, de la tenue. Et donc voilà, c'est un terme qui est curieux. Sur les LR, j'entends ce que dit... ma chère voisine, et elle a raison, ils se connaissent tous, leur ancien président de groupe est maintenant au gouvernement avec M. Macron. Mais il faut quand même comprendre qu'il y a un noyau assez dur dans le groupe Les Républicains, qui est un noyau de jeunes députés, qui ont eu face à eux des candidats de la majorité présidentielle. L'Élysée a, sans doute là aussi, pour stimuler un peu les choses, fait circuler il y a quelques mois une liste, ils ont appelé ça la « kill list », de jeunes députés qu'il fallait faire battre. Il y avait là M. Minot, député de l'Oise, il y en avait quelques autres. Bon, Mme Virginie Dubaud-Muller dans le Jura, ce sont des gens qui ont résisté à toutes les tempêtes. Ils ont résisté à l'effondrement de la droite. Ils
oui,
ont
mais l'intérêt de la France, à un moment... Dans toutes les démocraties, on se bat.
On et a puis aussi après, le droit.
On appartient au même pays, quand même. On a des intérêts communs. Je veux dire, voilà, oui, on ne va pas rester enfermé dans sa tranchée.
Ils ont aussi le droit de considérer qu'on peut défendre des convictions dans ce pays, qu'il y a, et c'est un homme de gauche qui le dit, donc vous voyez, j'ai aucun intérêt là-dedans, qu'il y a quelque chose qui s'appelle la droite dans ce pays, qui n'est pas complètement soluble dans un grand rassemblement, et qu'il y a des gens dans ce pays qui ont envie d'avoir à l'Assemblée nationale des députés de droite. Voilà, je pense que c'est une voix qui peut être entendue.
Louis Dragnel, il y a un bureau national, je crois, en ce moment, chez les LR. Il faut qu'ils clarifient la ligne, il faut qu'ils sachent où ils vont, qu'ils aient un leader. Ça fait beaucoup de choses pour les LR.
Oui, mais je pense qu'en fait, déjà, la balle est dans le camp d'Emmanuel Macron. Il faut qu'il nous explique ce qu'il veut faire. En fait, on ne sait toujours pas. Il a été élu président de la République il y a plus d'un mois. On ne sait pas où il veut aller. Ça fait quand même 5 mois que le gouvernement ne travaille pas. Non, mais il faut quand même imaginer. La crise politique, en fait, elle a commencé bien plus tôt. Il y a eu le début de la campagne présidentielle, ensuite guerre en Ukraine, plus personne ne fait rien. Et moi, je vois, il y a même des ministres qui disent mais ça va durer combien de temps, cette histoire ? Non, mais réellement, des ministres donc, qui ont été reconduits et qui... Alors, il y en a qui saisissent de nouveaux sujets, donc ils apprennent plein de choses, mais il y en a d'autres pour... Il y a un peu plus de continuité. Ils se demandent vraiment à quoi ils servent. Et alors, c'est, ma question, c'est... J'ai pas de pitié pour les ministres. C'est que si des ministres se demandent à quoi ils servent, c'est dire que les Français, eux, rien n'arrive jusqu'à eux.
Et sur les LR ?
Sur les LR, écoutez, moi je pense que je suis assez d'accord avec ce que dit Amina Katmi. Le problème, par rapport à ce que vous disiez, vous avez une vision idéaliste. Voilà. Non, mais idéaliste,
je pense
que
c'est du terme. Je pense juste à la France, c'est
mais vous avez raison. Mais non, mais c'est loin.
Attendez, je termine juste. Qu'est-ce qu'il y a de gauche chez Macron, franchement ?
Attendez, je termine juste. Vous avez des députés LR, globalement, ceux qui ont été réélus ou ceux qui ont été élus, ce sont ceux qui se sont fait élire. Il y en a certains, pour les réélections, ils ont été humiliés pendant 5 ans par Emmanuel Macron. Ceux qui ont été élus, ils se sont fait élire,
j'ai bien compris,
uniquement contre Emmanuel Macron. Mais attendez, et le respect que vous devez à vos électeurs, vous vous faites élire parce que vous allez dire moi, ça, je ne ferai pas ça, je ne ferai pas ça, ou alors je proposerai, je ne sais pas, sur la sécurité et l'immigration, je ferai exactement le contraire de
ce qu'a fait Emmanuel Macron. Mais il va falloir que Macron fasse la même chose
avec ses
électeurs. C'est-à-dire que tout le monde va voir ses électeurs en disant ben voilà, mais le pays est dans telle situation.
Guylaine, le problème,
ça, on a voulu, on peut le faire et on l'a obtenu. Guylaine, on fera pas tout, mais on fera une partie.
Guylaine,
c'est mieux que rien du tout.
Guylaine,
le problème, en fait, la résolution du problème.
Attendez,
c'est peut-être utopique, Guylaine, mais vous êtes aveugle.
Est-ce que je peux terminer ? Là, je pense que le début de la résolution du problème viendra non pas des partis politiques, mais doit venir d'Emmanuel Macron. Vous parlez de coalition. Attendez, je peux terminer une phrase. Moi, je suis pour un gouvernement. Je pense que la situation exige un gouvernement d'union nationale où c'est Emmanuel Macron par le haut.
Mais
d'accord, mais la coalition, ça se fera encore moins. Ça n'existe pas. On n'a pas une culture de coalition. On a déjà essayé et ça a fonctionné. Après la guerre. Je termine simplement, Guylaine.
Allez-y, Louis.
Je pense.
Vous mettez du temps à terminer aussi.
Non, mais je suis interrompu toutes les deux phrases. Non, mais vraiment.
Parce que vous dites des banalités que je sais.
Mais vous, et la coalition, on raconte aux auditeurs des choses qui ne se feront jamais. Ça n'existera pas. On n'a pas une culture de coalition. Vous avez globalement aujourd'hui tous les partis politiques. Ils se détestent tous.
Et ça, c'est fait.
Mais parce que ça, c'est les électeurs qui l'ont décidé.
On avait dit à la première alternance, oulala, ça n'a jamais marché. Ça a très bien. Il y a eu un peu de bordel au début, mais ça a marché. Après, les Français ont dit.
Mais la 4ème République, ça n'a pas marché.
On va faire la cohabitation. Ça a très bien marché. Jospin, ça a très bien marché. Bon,
il n'y avait rien qui marchait après, mais il n'y avait pas de décision.
Là, il y a une très bonne croissance. Il y a une très bonne
situation.
Et là, maintenant, les Français.
Elle fonctionne, notre 5ème République.
Les Français, ils cherchent des moyens pour.
Mais c'est pas un système, c'est des hommes politiques. La 5ème République, elle est très saine, mais bien sûr que si. Et moi, attendez. Mais au début de la 5ème République, on n'avait pas les problèmes qu'on a là. On l'a tellement détricoté.
Il n'y avait pas Twitter. Il n'y avait pas Twitter.
À la situation à laquelle on
est. Ok, Guylaine, laissez-le juste terminer.
Et je pense qu'une chose, c'est que le problème, c'est celui de la crédibilité aujourd'hui d'Emmanuel Macron. Et je trouve qu'il y a un effet de. On pourrait parler de ressort cassé avec les Français. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de Français qui sont lassés d'être appelés à la rescousse d'Emmanuel Macron avant chaque élection.
Nous, ce qu'on veut,
mais je tape pas sur Macron, décrypter.
Oui, depuis le début, vous tapez sur Macron. Mais d'accord, on a compris que c'était sa faute. Ce que les gens ont envie de savoir aujourd'hui, moi, ce que j'entends autour de moi, les gens ont envie de savoir, qu'est-ce qui va se passer ? Oui, Macron a fait des bêtises. Oui,
mais
Macron
ça doit venir d'Emmanuel Macron. Ça ne se fera pas par l'opération du Saint-Esprit. Ça se fera pas par.
Il doit mettre un genou à terre et dire j'ai besoin de vous.
Mais il va parler demain. Peut-être qu'il aura l'occasion de dire ça.
L'Union nationale.
Édouard Philippe.
Il a un allié évident qui n'est pas si compliqué.
J'attends de voir la coalition avec
parce que ça, Louis Guylaine, si je peux me permettre de dire un petit mot. Donc, Édouard Philippe Duc, il est possible d'imaginer une discussion franche et un compromis avec les LR. Et il dit qu'Emmanuel Macron est capable de faire ses compromis. Il veut une majorité stable et une coalition, quasiment. Donc, ça, c'est utopique, Amine.
Mais c'est surtout qu'on est dans une situation qui ne lui laisse pas énormément d'options.
C'est les LR qui ont le choix.
Emmanuel
Macron
a parfaitement raison.
Parce qu'il faut, ça va dans les deux sens.
Est-ce que lui-même, déjà, sait-il lui-même ce dont il en. Non, mais c'est vrai, parce
qu'on ose l'espérer quand même.
On finit par se demander. Je ne suis pas certain, voyez-vous, de ce qu'on voit depuis quelques jours. On se demande si le président lui-même a une idée claire de la situation. Une fois qu'il aura une idée claire, va-t-il faire des propositions parce qu'il ne faut pas attendre que les LR aillent faire. allégeance dans la cour de l'Élysée en lui demandant de le soutenir. C'est l'inverse qui doit être fait. C'est lui qui doit leur donner des gages, faire des concessions sur le plan programmatique. Et encore une fois, c'est ce que je disais tout à l'heure, mais ça me paraît important, le risque, si on s'achemine vers l'option que semble pousser Édouard Philippe ce soir, c'est que la promesse du « et en même temps » qui a fait venir à Emmanuel Macron des sociodémocrates, des écologistes, des gens qui venaient plutôt de la gauche, risque de se briser et de faire perdre ces soutiens-là. Donc si vous récupérez quelques dizaines de voix et que vous en perdez d'un côté ou que vous en perdez de l'autre,
c'est une dissolution c'est pas politique, ça.
On fait une petite pause, on se retrouve dans un instant, on parlera d'Anups et de Jean-Luc Mélenchon. À tout de suite.
Punchline sur Europe 1, Laurence Ferrari.
On se retrouve dans Punchline avec Guylaine Ottenheimer en pleine forme ce soir, Amine El Khatmi et Louis de Ragnel d'Europe 1. Allez, on va s'intéresser à la NUPES. Jean-Luc Mélenchon était aujourd'hui à l'Assemblée, non pas parce qu'il est député, il ne s'est pas représenté, vous le savez, mais il voulait faire visiter les locaux à ses insoumis, à son groupe. Et on va écouter ce qu'il dit, il veut renforcer le rôle du Parlement.
Là, je viens à l'instant de participer à la réunion de constitution du groupe Insoumis à l'Assemblée nationale. Notre cap stratégique, c'est le renforcement du rôle du Parlement. Ce n'est pas vrai qu'il n'y a pas de pouvoir dans ce pays. Il y a un pouvoir battu, il y a un pouvoir de fait, celui de Madame Borne, sans validation démocratique, et puis il y a un pouvoir institutionnel, constitutionnel, plein et entier, qui est le pouvoir de légiférer des députés. La première tâche maintenant du gouvernement de Madame Borne, puisqu'il y a une Assemblée qui vient d'être élue, c'est de se présenter devant l'Assemblée et de demander la confiance. Certes, la Constitution n'oblige pas à ce vote. Si la Constitution n'oblige pas à ce vote, les groupes parlementaires ont une autre possibilité, qui est de déposer une motion de censure.
Voilà pour Jean-Luc Mélenchon. Là aussi, Guylaine Ottenheimer, il joue sa partition à fond. Motion de censure, vote de confiance au Parlement pour la Première ministre.
Déjà, quand ils étaient une poignée à l'Assemblée nationale, ils arrivaient à faire pas mal de bruit et l'événement. Là, c'est on fait. Imagine la caisse de résonance. Parce qu'effectivement, il y a un certain nombre de possibilités pour les députés d'exister. On dit toujours que le Parlement est mort, que le Parlement n'a pas de pouvoir. Il en a. Pas tant que ça quand on est dans l'opposition, mais il en a. Et c'est pour ça qu'il y a une grosse bagarre sur la présidence de la Commission des Finances, parce que là, vous avez énormément de pouvoir. Vous pouvez commander des missions, vous pouvez aller faire des surpièces, vous savez, des vérifications sur pièces dans une administration.
Et ça doit revenir au rassemblement national.
Vous avez aussi accès à tous les dossiers fiscaux. Donc vous avez des moyens. Vous avez des gens qui travaillent pour vous. Vous pouvez faire des études avec l'aide de l'inspection des finances, de la Cour des comptes. Enfin, vous avez vraiment des moyens pour mettre en difficulté le gouvernement ou le contrer avec d'autres chiffres, d'autres arguments. Donc ça, c'est très 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 important. La présidence de la Commission des finances a été à Éric Woerth et ensuite c'était LR. LR n'était pas très méchant, voilà, on les a pas entendus beaucoup mordre le gouvernement. Si ça appartient ça va mordre,
mais ça sera pas la NUP, mais mathématiquement ça peut pas être la NUP.
C'est difficile parce que ça c'est un vote,
c'est le RN qui est le premier parti d'opposition de France.
C'est un vote qui se fait au sein de la commission. Les gens sont au prorata de ce qu'ils représentent dans l'hémicycle. Et donc la NUP, elle est plus importante en voix que le RN.
Amine
Sauf si la majorité se met
sur la façon dont les insoumis, Jean-Luc Mélenchon, drive ce groupe de l'extérieur, parce qu'il n'est pas élu, mais qui vont peser lourd dans les débats.
Oui, ils vont peser lourd et on imagine bien quand il dit le pouvoir battu. Moi, je suis toujours assez stupéfait par le culot de Jean-Luc Mélenchon. Plus c'est gros, plus ça passe. Tout à l'heure, il a dit, en parlant de la Première ministre, cette femme n'a aucune légitimité. Et je me dis que quelqu'un qui a présenté sa candidature à 3 reprises à la présidence de la République et qui a été battu 3 fois, qui, n'étant pas élu président, a présenté sa candidature pour être Premier ministre, sans d'ailleurs lui-même être candidat aux élections législatives, et qui n'a pas été élu, qui donne des leçons d'absence de légitimité à des gens qui, jusqu'à preuve du contraire, ont soutenu quelqu'un qui a été élu président de la République 2 fois et qui dispose du groupe le plus important à l'Assemblée nationale. Après, sur l'affaire de la Commission des Finances, c'est pas soit un insoumis, soit rien. Il y a des profils au sein de la NUP, je pense à quelqu'un comme Valérie Rabault, qui a été rapporteur du budget, qui est députée socialiste, qui est quelqu'un de très consensuel et qui, à mon avis, dans la dernière ligne droite, peut faire l'objet d'un accord.
Louis, il n'y aurait pas plutôt un accord avec les LR pour cette présidence de la Commission des finances, non ?
Alors, je trouve qu'il est un peu tôt pour savoir ça. Alors, c'est vrai que facialement, sur le papier, ça pourrait revenir au Rassemblement national et le RN fait tout pour essayer de récupérer cette commission. Ensuite, tout dépend de la stratégie des LR. Qu'est-ce qu'ils veulent faire ? Est-ce qu'ils veulent vraiment rester dans cette posture de refus de discuter avec le gouvernement ou pas ? Il y a une chose que dit Jean-Luc Mélenchon que je trouve intéressant. Il a raison sur le fait que, le Parlement va avoir un pouvoir qui est considérable par rapport à ce qu'on a connu par le passé. Comme habituellement, le président élu avait une majorité, là, une majorité absolue, dans la mesure où ce n'est pas le cas, mécaniquement, voilà, les oppositions ont un pouvoir beaucoup plus important, et donc le gouvernement va être, on le dit en long, en large, en travers depuis des jours, va avoir beaucoup de mal. Le deuxième élément, c'est sur la confiance. Effectivement, le gouvernement n'est pas obligé de demander le vote de confiance. En revanche, il l'avait demandé pour Édouard Philippe, personne ne s'était posé la question. Si le gouvernement commence la législature sans passer par le vote de confiance, je trouve que ça sème quand même, même si ça n'a pas d'impact.
Un vote de faiblesse.
Quand même. C'est un immense aveu de faiblesse et ça commence quand même de fait très mal. Donc,
de toute façon, derrière, il y aura une motion de censure.
Oui, mais qui passera pas.
Non, mais qui passera pas. Mais ça, c'est le même effet. Il y aura un vote.
Oui, mais le fait de solliciter la confiance, c'est une prise de risque. Ça veut dire que vraiment, c'est l'exécutif, le gouvernement.
Et si elle n'a pas la confiance, elle démissionne.
Et si elle n'est pas obligée, non. On n'est pas obligé de tenir compte vote de confiance.
Ça ne sert à rien.
C'est symbolique. Non, non, mais
ça ne sert absolument à rien.
Non, c'est psychologique et symbolique.
Il y a des premiers ministres qui ont eu le vote de confiance et qui ont été virés aussi.
C'est la motion de censure qui renverse le gouvernement.
Absolument.
C'est la motion de censure. Le vote de confiance est un vote
plus symbolique pour faire partir, donner une légitimité.
En revanche, si la motion de censure du 5 juillet recueille une majorité de suffrages, ce qui relève de l'improbable à ce stade, parce qu'il faudrait que le RN,
l'ANUPS
et LR.
Et LR s'est déjà exprimé en disant pas question. Et le RN est très gêné à l'idée de participer à une action de l'extrême gauche.
Si cette motion du 5 juillet recueillait une majorité d'une voix, ça renverse le gouvernement.
D'accord. Mais que assez peu probable.
Donc c'est très probable. Bon, ça renverserait le gouvernement.
Il n'y a pas de majorité. Il n'y a pas de contre-majorité gouvernement.
Ça ne changerait pas grand-chose.
C'est pour ça que, par rapport à ce que dit Louis sur le fait que ça ne change pas grand-chose, la réalité, c'est que on peut tourner cette affaire dans tous les sens, en imaginant toutes les options. Coalition, alliance, pas alliance, dégoter les uns en leur promettant un hôpital, une fac, une école, ça se fait comme ça aussi.
Et surtout,
le marchandage.
Plus facilement à 10 qu'à 45, mais quelle que soit l'option, on ne voit pas comment ça peut durer 5 ans. Objectivement, ça paraît... alors, la politique réserve toujours des surprises, mais on ne voit pas comment, dans une configuration telle que l'Assemblée est sortie des urnes dimanche, comment... Le pays peut être gouverné pendant ce temps.
Mais c'est très intéressant.
Vous envisagez une dissolution à court terme ?
Mais je pense.
Ah, mais c'est intéressant parce que ce que vous dites, moi je pense exactement comme vous.
Je crois.
Parce que précisément, moi je ne crois pas, je ne pense pas qu'on soit mûr pour. Et je pense pas que ce soit sain d'avoir un régime réellement parlementaire avec la logique de coalition chère à mon ami Guylaine Ottenheimer.
Non, mais je suis d'accord, Macron va laisser pourrir l'affaire.
Et du coup, je suis très attaché à la 5e République, c'est pour ça que je pense comme ce que vous venez de dire, Amine. Et je pense que le gouvernement. À partir du moment où un président a été élu, c'est normal de lui donner une majorité. Non, mais réellement, parce que je comprends le fait que les Français aient voulu sanctionner Emmanuel Macron. Je pourrais dire ça pour n'importe quel président de la République. À partir du moment où on a décidé d'aligner le quinquennat, les élections législatives sur l'élection présidentielle, je trouve qu'il y a effectivement quelque chose qui n'est pas logique et du coup, ça ne peut pas continuer puisque le système n'est pas fait pour ça.
Je crois qu'il ne faut pas lire l'élection juste... à l'aune des majorités et du nombre de députés. Il faut aussi voir le message des Français. Qu'est-ce que c'est le message ?
Non, le message, c'est quoi le message ?
Le message, on ne veut plus de cette république verticale avec un parti.
C'est la détestation. Il y a beaucoup d'antimacronisme.
Je termine, vous ne me laissez pas non plus parler. Non.
Je
pense que ça fait longtemps que les Français ne veulent plus de ce régime. Ils ont fait la cohabitation, l'alternance, le et en même temps, et maintenant ils vont faire le tripartite. Ils essayent de. D'ailleurs, il y a très peu de sondages parce que les gens. L'élite est attachée à la 5e, c'est formidable, on a une sorte de roi, on est unique en Europe. Ça se passe très mal avec les autres pays parce que c'est compliqué. Les autres, ils ont tous des premiers ministres qui sortent du Parlement, etc.
Il y a d'autres pays en crise.
On est les seuls à avoir un président de la République élu au suffrage universel. Donc, l'élite est très attachée à ce système. Et il y a très peu de sondages. Mais les rares sondages qu'il y a eu, les Français sont hostiles à la Ve République et au pouvoir centralisé du président de la République.
Très simplement là-dessus et très calmement.
Et rapidement.
Je ne pense absolument pas que le vote de ces élections législatives soit un vote de contestation du système de la Ve République.
Non,
je pense tout le contraire de ce que vous venez de dire.
Débat sur la Ve. Amine, vous voulez arbitrer le débat
Non,
pour ou contre la Ve?
Mais deux choses très rapidement. D'abord,
quand je dis ça souvent, ça dure 10 minutes.
On peut se féliciter quand même du retour du Parlement. On n'a jamais autant parlé du Parlement.
Et tout le monde est content de ça.
Non, mais c'est vrai.
Vive le Parlement.
Mais l'hypothèse la plus probable, c'est que le président laisse pourrir, pardon, le mot n'est pas très joli, laisse pourrir la situation. La succession de Christian Jacob chez LR, si c'est Laurent Wauquiez, par exemple, qui est sur une ligne dure, il fera pas un cadeau à Emmanuel Macron. Donc, laisser pourrir la situation, prendre à témoin les Français en disant, voyez, ça peut plus durer, et dissolution dans la
vie. Et avec un résultat pas garanti.
C'est pas gagné. Dominique de Villepin s'en
fout. S'il perd, il fait quoi, le président?
Ça s'appelle la vie politique.
Au prochain épisode. Merci à tous les trois. Vous m'avez régalé ce soir. Dans un instant, les infos avec Alexandre Le Maire et puis Mouloud Achour, Verven Underground. Bonne soirée sur Europe 1.
Toute seule.
Europe 1, 18h-20h.
Punchline, Laurence Ferrari.